Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage s'intéresse aujourd'hui à la biologie des graines. Ce sujet vous semble incongru et pourtant, vous allez le découvrir au sein de cette émission, les graines méritent un peu plus de considération. Aussi petites qu'exceptionnelles, elles résistent à de violents incendies, peuvent être imbibées pendant plusieurs siècles et se constituent de réserves alimentaires dignes de sportifs. Canal Academy passe à la loupe les différentes étapes de la graine, de sa constitution à la germination, en compagnie de deux scientifiques incollables sur la question, Michel Caboche et Dominique Job. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy au cœur de l'Institut de France à Paris. Avant de débuter cette émission, je vais vous présenter Michel Caboche. Vous êtes directeur de recherche à l'INRA. Vous travaillez actuellement au laboratoire de biologie des semences INRA-INA-PG à Versailles et vous dirigez l'unité mixte INRA-CNRS Université d'Évry de recherche en génomique végétale. Et Dominique Job, vous êtes chercheur, directeur de recherche au CNRS à l'unité mixte de recherche physiologie cellulaire végétale, Bayer Crop Science. Et vous êtes, j'ajoute, correspondant de l'Académie d'agriculture. Et pour vous, Michel Caboche, j'ai oublié de préciser que vous êtes membre de l'Académie des sciences. Alors, tous les deux, vous avez mené ensemble une séance commune de l'Académie des sciences et Académie d'agriculture. C'était le 25 mars 2008, sur le sujet des graines, avec des communications qui portaient sur la maturation, la croissance, la germination et l'amélioration des caractéristiques nutritionnelles des graines. Nous allons donc évoquer ensemble ces processus, mais pour commencer, si vous le voulez bien, apportons une définition à la graine. Qu'est-ce que c'est et est-ce que le pollen entre dans la définition des graines ? Michel
Alors,
Caboche.
Les plantes sont des organismes qui sont rivés au sol, qui ne se déplacent pas, et les graines en particulier permettent aux plantes de se disséminer dans l'environnement, c'est-à-dire de quitter l'endroit où la plante mère s'est développée pour aller coloniser d'autres secteurs. Le pollen n'est pas une graine, mais le pollen est nécessaire à la formation des graines, car il intervient dans le processus de fécondation. Une graine, c'est avant tout le résultat d'une fécondation, comme dans le règne animal. Cette fécondation aboutit à la formation d'un embryon qui va être ensuite enrobé dans divers types de tissus pour constituer la graine.
Alors, elle est très résistante, cette graine. Dominique Job, vous en avez parlé lors de l'introduction de cette séance commune. Elle résiste à de très hautes températures, elle peut vivre très longtemps. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Oui, donc, pour citer quelques exemples, les incendies. On sait, par exemple, en Australie, que les aborigènes ont, depuis des millénaires, incendié leur territoire pour enrichir le sol. Et donc, ce faisant, ils ont sélectionné, domestiqué des espèces végétales résistantes au feu. Et il se trouve que certaines graines ne peuvent germer qu'en présence de fumée.
C'est le séquoia, par exemple ? C'est le cas du séquoia ?
Ou l'eucalyptus, ou d'autres plantes qui sont devenues, d'une part, très résistantes au feu, et d'un autre côté, pour lesquelles les graines ont acquis un mécanisme de germination qui est contrôlé par la fumée d'incendie. Donc ça, c'est un mécanisme de résistance. Et d'autres mécanismes de résistance que l'on rencontre tous les jours, eh bien, c'est lié au fait que la graine, dans la plupart des cas, est libérée dans un état sec, avec très peu d'eau, de l'ordre de 10% d'eau. Et cette propriété permet aux graines de résister pendant des dizaines, voire des centaines d'années.
C'est ce qu'on appelle la dissécation.
C'est ce qu'on appelle la dessiccation.
La dessiccation. Existe-t-il des plantes sans graines ?
Oui, il existe des plantes sans graines. Les plantes primitives que sont les fougères, par exemple, sont des plantes qui ne font pas de graines. Les plantes qui font des graines sont les plantes supérieures, comme les dicotylédones, bien sûr, les plantes à fleurs que nous connaissons, mais aussi les résineux, les conifères, mais aussi les cycas. Et donc, la graine est une invention relativement récente au cours de l'évolution.
Qui date de 400 millions d'années à peu près ?
Oui, de cet ordre de grandeur, de l'époque.
Lorsque nous préparions cette émission, Dominique Job, vous vouliez faire la différence entre les graines orthodoxes et les graines récalcitrantes.
Oui.
Alors, quelle est la différence entre les deux ?
Donc, il y a deux grands types de graines. Bon, tout d'abord, peut-être revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une graine. Une graine, dans tous les cas, c'est une plante en miniature qui est à l'intérieur d'un tégument qui la protège de l'environnement contre les dérivés toxiques de l'oxygène et contre différentes attaques par différents rayonnements. Cette plante en miniature est à l'intérieur de la graine et il existe deux types de graines qui supportent ou non une dessiccation intense en fin de leur maturation. Et ces deux types de graines sont appelées par des noms un peu curieux, les graines orthodoxes pour les graines qui supportent la dessiccation, qui sont la majeure partie des graines, et les graines récalcitrantes qui ne supportent pas la dessiccation et qui sont libérées dans un état hydraté. Dans cette dernière catégorie de graines, tout le monde connaît certaines espèces, par exemple le caféier, le cacaoyer, donc il y a des espèces agronomiquement très importantes. Et en général, ces graines récalcitrantes viennent de cultures qui se développent dans les pays à climat équatoriaux.
Les graines récalcitrantes doivent germer vite.
Elles doivent germer rapidement parce qu'elles ne peuvent pas se conserver.
Est-ce que l'on connaît, par opposition, des graines qui vont pouvoir rester en dormance, nous y reviendrons au cours de cette émission, pendant plusieurs siècles?
Oui. Alors, un exemple scientifiquement prouvé, c'est le cas de graines du lotus sacré, qui ont été trouvées en Chine, enfouies dans le sol, et qui ont été datées au carbone 14 pour être âgées d'au moins 1400 ans.
Mais ce sont des fossiles.
Non, ces graines sont viables. On a pu les faire germer, elles ont régénéré des plantes.
Donc nous avons, ça s'étend donc de quelques jours à
1400
ans.
Alors ça s'étend, selon les espèces, de quelques jours à 1400 ans.
Michel Cabosch, vous avez travaillé sur la composition des graines. La graine comporte des protéines, des lipides, du phosphore, des vitamines. Qu'est-ce que l'on sait en détail sur la composition des graines ?
Eh bien, les graines sont utilisées comme aliment par les animaux et l'homme parce qu'effectivement, les graines contiennent toute une série de réserves tout aussi importantes les unes que les autres. On y trouve des réserves énergétiques comme l'amidon, qui est en fait constitué de briques de base qui sont des sucres. Mais on y trouve aussi des protéines qui ont des caractéristiques très variées. Et on y trouve aussi des lipides, en particulier ce qu'on appelle des triglycérides, qui sont des lipides qui vont être très utiles à la graine lorsqu'elle va germer pour fournir de l'énergie par un mécanisme de dégradation de ces lipides qu'on appelle la bêta-oxydation. Donc parmi ces réserves de la graine, il s'en trouve aussi qui sont des réserves minérales, comme par exemple la phytine, qui est un composé qui constitue à la fois d'inositol, qui est un sucre, et en même temps de phosphate, et associé à ces phosphates aussi du calcium et d'autres cations. Et donc, au fond, la graine dispose d'à peu près tout ce qu'il lui faut pour assurer son développement, son démarrage de germination, jusqu'à ce qu'elle puisse substituer à ses réserves de nouvelles ressources qui vont être constituées par le fait qu'elle va être capable de développer un appareil photosynthétique, utiliser la lumière et le gaz carbonique pour fabriquer des sucres.
La photosynthèse va prendre le relais à partir du moment où il y aura germination pousse. Oui, vous
voulez
rajouter quelque chose, Dominique Jeb ?
On parle en fait de vie hétérotrophe dans le stade de la germination, donc vie sur les réserves, par opposition à vie autotrophe, lorsque la plante a acquis la capacité photosynthétique.
Michel Cabosch.
Oui, alors une chose à ajouter, si ces graines sont si riches en éléments, on comprend que beaucoup de prédateurs veuillent s'en emparer. Donc on a l'image peut-être un petit peu naïve que les graines sont bonnes à manger naturellement.
Et c'est justement la question que j'allais vous poser.
Et il se trouve que beaucoup de graines sont en fait extrêmement dangereuses parce qu'elles contiennent des substances qui les protègent justement des prédateurs.
Quel type de graines par exemple ?
Eh bien, beaucoup de graines contiennent des inhibiteurs d'enzymes de protéolytiques, des enzymes qui sont là pour dégrader les protéines. Eh bien, les graines contiennent ce qu'on appelle les antiprotéases qui vont rendre les protéines de la graine indigeste pour l'animal qui va vouloir les manger. Quelquefois, ce sont des substances qui sont carrément des toxines. La ricine, par exemple, est une toxine extrêmement dangereuse qui est présente dans les graines et qui peut foudroyer la personne qui la mange. Beaucoup d'espèces végétales qui ont été domestiquées par l'homme ont dû subir un traitement qui a permis d'éliminer certaines de ces substances toxiques. Ce traitement, c'est tout simplement la recherche de mutants qui vont être affectés pour certaines de ces fonctions toxiques pour l'homme. Et puis l'homme a fait aussi une grande découverte. Il a découvert le feu et en faisant cuire un certain nombre de graines, une des choses que l'on fait, c'est d'éliminer certaines substances toxiques en les dénaturant par la chaleur.
Alors, les graines sont composées à 90% de leur poids sec, de ces composés dont vous nous avez parlé. Ça veut dire que la plante en elle-même n'a pas beaucoup de place. Déjà, une graine est toute petite.
Oui, mais il faut bien savoir où se trouvent ces réserves. Je reviens au pollen et à la fécondation. Lorsque la fécondation se fait au niveau de la plante, il y a en fait chez les plantes un processus un petit peu compliqué qui est dit une double fécondation. Et un des produits de fécondation va donner un embryon qui lui donnera naissance à la plante par la suite. Et l'autre produit de fécondation va donner l'albumène, qui est un tissu de réserve pour la graine. Et cet albumène et cet embryon, eux-mêmes, sont enveloppés dans une troisième couche qui est constituée de tissus qui sont des tissus maternels. Et donc la graine, c'est l'addition de trois types de tissus différents qui peuvent avoir des compositions assez différentes les uns des autres.
Et qui ont d'ailleurs des termes un peu techniques, sporophyte maternel, gamétophyte et sporophyte, c'est ça ?
Oui. Oui. Ce qui est à retenir, c'est que de toute façon, l'embryon lui-même contient toujours des réserves. Donc l'embryon est à la fois ce qui va donner naissance à la plante, mais une partie de ces cellules vont servir de zone de stockage aussi. C'est particulièrement le cas, par exemple, pour les huiles. Les réserves en huile sont souvent situées dans l'embryon lui-même. Par exemple, une espèce comme le colza va comporter de l'ordre de 40% d'huile dans ses graines, et ces 40% se trouvent toutes dans les embryons.
Et dans le fond, c'est quelque chose qui est facile, qu'on peut comprendre intuitivement, parce que la germination va être un processus progressif dans le temps, et donc il va y avoir simplement un étalement de l'utilisation des réserves. Les premières réserves qui vont être consommées sont celles qui sont stockées dans la future racine de la plante, dans la radicule, puis dans les ébauches de feuilles, les cotylédons, et enfin dans le tissu de réserve dont Michel a parlé tout de suite, l'albumène. Donc c'est un mécanisme aussi. Le stockage des réserves dans différents territoires, c'est un mécanisme pour la plantule d'assurer son approvisionnement progressif jusqu'au moment où elle est autotrophe.
Comment font les graines pour constituer leurs réserves alimentaires ? Quand elles sont encore sur la plante, c'est la plante qui décide de nourrir ces graines jusqu'à un moment donné ? Michel Caboche.
C'est un processus effectivement assez complexe parce que, si je puis dire, la plante n'a pas le droit de se tromper. Il faut qu'elle soit prête à remplir les graines à un stade où ces graines pourront être complètement remplies jusqu'à maturité. Si une plante, par exemple, fleurit trop tard, on peut imaginer que lorsque le froid viendra, le remplissage des graines ne sera pas encore complètement terminé. Si, au contraire, la plante monte à fleur beaucoup trop tôt au cours du développement, elle risque d'être en plein développement en période estivale où on manque d'eau et où on va réduire la capacité de stockage dans les réserves de la graine. Par conséquent, la mise à fleur et le remplissage des graines sont des processus qui sont très contrôlés de manière assez compliquée par toute une série de gènes qui interviennent dans ce contrôle. Et ceci a pour objectif de permettre à la plante d'abord de développer ses réserves végétatives, de développer son appareil végétatif, d'accumuler des réserves dans ses feuilles, et puis ensuite de transporter ces réserves qui ont été accumulées dans les feuilles via les vaisseaux conducteurs jusque dans les graines. Et ce processus de remplissage des graines va se faire tant que la plante mère pourra les alimenter. Et si les ressources de la plante mère viennent à se tarir, les dernières graines qui n'ont pas encore été remplies ne se rempliront pas complètement et risquent d'avorter.
Dominique Job.
À ce propos, pour les plantes, vraiment une particularité, une caractéristique, qui est que les animaux font leur progéniture quand ils sont jeunes, alors que les plantes font leur progéniture au moment où elles meurent. Et c'est simplement parce que la plante décide en quelque sorte de se suicider au profit de sa progéniture pour donner aux graines en formation tout le carbone qu'elle a accumulé dans ses feuilles. Donc ça, c'est un mécanisme qui est extrêmement particulier et c'est une mort cellulaire programmée qui fait partie de la biologie des plantes.
Et c'est justement la question que j'allais vous poser, à savoir, est-ce que la plante, à un moment donné, elle choisit de, je ne sais pas si c'est le cas, mais est-ce que la plante, à un moment donné, elle fait en sorte de réfléchir, de penser à sa lignée, à la suite, à la survie de son espèce plutôt qu'à sa propre survie à elle ?
La plante ne réfléchit pas.
Oui,
beaucoup,
elle ne réfléchit pas. Oui, c'est pour ça que vous m'excuserez.
Elle n'a pas de système nerveux qui lui permette de développer
son mécanisme.
Mais effectivement, il y a toute une programmation, si je puis dire, une programmation qui est génétique, qui permet à la plante de se préparer d'abord à développer son appareil végétatif et ensuite à développer des parties aériennes qui vont porter les graines. Et cette stratégie va être très différente selon les espèces. L'exemple qu'on a discuté à l'instant, c'est celui des plantes annuelles, c'est-à-dire que la graine est mise en terre au cours de l'année et la même année, on récolte la descendance, on récolte les graines. Mais il y a des plantes qui sont capables de survivre durant l'hiver, mais qui pendant l'hiver, évidemment, ne vont pas produire de graines parce qu'elles vont avoir une vie au repos. Et donc ces plantes-là vont chaque année, durant la période propice qui va être la période estivale, vont refleurir, refaire des graines. Et puis à l'automne, ces graines vont arriver à maturité, vont être dispersées. Et l'année suivante, le processus va se répéter. Donc certains conifères ou de très grands arbres peuvent faire ça sur une centaine d'années. Tous les ans, pratiquement, à partir du moment où ces plantes ont acquis la capacité à produire des graines, ce qui ne se fait pas aux toutes premières années. Beaucoup de ligneux vont commencer à produire des graines au bout de 4 ou 5 ans. Par exemple, si vous avez des pommiers dans votre jardin, des pommiers qui sont issus de pépins ne vont pas vous donner de fruits ni de graines les premières années. Ils vont être capables de le faire au bout de plusieurs années et ensuite le faire de manière permanente jusqu'à leur propre mort.
Je vous propose de marquer une première courte pause, Michel Caboche et Dominique Job. Dans la deuxième partie, nous poursuivrons sur les graines et peut-être la qualité différente des graines sur une même plante. À tout de suite.
Le philosophe René Girard de l'Académie française poursuit sa réflexion sur la violence qui, échappant à tout contrôle, menace la planète. Il vient de publier un nouveau livre, Achevé Clausewitz. Retrouvez-le sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage sur la graine, la biologie de la graine, en compagnie de Michel Caboche et de Dominique Job. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser, nous avions terminé sur les graines et sur ces futures graines qui peuvent constituer des réserves alimentaires. Ces graines peuvent avoir des qualités différentes sur une même plante apparemment. Michel Caboche, vous avez travaillé un peu dessus, même beaucoup dessus.
Ces graines, effectivement, peuvent avoir une qualité différente simplement parce qu'elles dérivent de fleurs et toutes les fleurs n'apparaissent pas sur la plante simultanément. Il y a un gradient, il y a une vague de floraison qui fait que certaines graines vont se former plus précocement, par exemple à la base de la tige qui portait les fleurs, que les toutes dernières fleurs qui se sont formées plus récemment à mesure que la tige se développe. Et comme les ressources de la plante ne sont pas illimitées, ces ressources qui sont transloquées des parties végétatives vers ces graines nourrissent d'abord les graines qui ont commencé à se développer et ensuite les graines suivantes et ainsi de suite jusqu'à arriver aux graines dernièrement formées. Mais si le processus de remplissage de graines continue à se faire par exemple dans des conditions d'environnement adverses où il n'y a pas assez d'eau par exemple pour que l'appareil végétatif fonctionne correctement, on va se trouver dans une situation de déficience nutritionnelle et les premières graines qui se seront formées seront correctement formées mais les toutes dernières graines seront incomplètement remplies et à ce moment-là, effectivement, ces graines risquent d'avorter tout simplement, de ne pas donner naissance à des graines viables dans l'environnement.
Alors, vous aviez donné également l'exemple, peut-être que Dominique Job pourra en parler un peu plus, l'exemple du pois, où là, les graines se présentent sous forme de gousses, de cosses, et donc à l'intérieur, des graines de différentes tailles, avec donc du coup des capacités, plus tard, de vigueur, plus ou moins importantes.
Peut-être d'abord, pour rebondir sur votre question, bon, c'est clair que pour l'agriculteur, il va avoir envie de récolter les graines toutes au même stade. Il n'a pas envie de repasser dans son champ tous les matins pour récupérer seulement les graines mûres. D'ailleurs, il ne saurait pas les trier. Donc, il y a beaucoup de sélection qui a été faite de telle manière à synchroniser la formation des graines. Mais d'un autre côté, pour les plantes sauvages, c'est un avantage de ne pas avoir cette synchronisation parce que la plante fait des graines de manière étalée dans le temps et des graines qui vont avoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, éventuellement une qualité différente, donc des capacités de survie différentes, et tout ça va contribuer au mécanisme de dissémination des plantes. La seule fonction des plantes, c'est de se reproduire et de refaire d'autres plantes. Voilà, donc ça fait partie des mécanismes. Et il y a un effort de la sélection pour lutter contre ça. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on a perdu, et si on revient au pois, donc il reste, malgré la sélection, qui a contribué à uniformiser la maturation des graines, il reste qu'à l'intérieur d'une même gousse, selon la position de la graine dans la gousse, on va avoir une alimentation par la plante mère qui est différente, et donc des graines qui atteignent des stades de maturation différents, et qui à la fin, lorsque la dessiccation va s'installer, ces graines seront figées, mais avec des acquis différents.
Et avec, je suppose, enfin vous en avez parlé, Michel Caboche, en préparant cette émission, au sein même des espèces, des diversités des espèces, pareil, des qualités de graines différentes.
Oui, la composition des graines peut être très très différente. Les céréales, par exemple, sont des graines qui contiennent comme réserve essentiellement de l'amidon et des protéines, alors que des graines d'oléoprotéagineux, comme le colza, par exemple, vont contenir un petit peu de protéines et beaucoup d'huile, par exemple. Donc, c'est des différences qui sont vraiment spectaculaires. Pour certaines espèces, on va avoir de l'ordre de 1% d'huile dans les graines, pour d'autres espèces, 40%. Et l'homme, évidemment, a domestiqué différentes espèces en fonction de ses caractéristiques. Pour les besoins en huile, évidemment, on a tendance à vouloir partir d'une espèce qui est déjà naturellement riche en huile, mais les travaux d'amélioration des plantes vont viser à augmenter encore cette teneur en huile.
Les modifications génétiques.
Les modifications génétiques. Alors, d'autres modifications génétiques qui jouent aussi sur les graines concernent cette question de maturité dont nous avons parlé tout à l'heure. L'architecture d'une plante a des conséquences sur la mise à fleur des différentes parties de cette plante. Pour beaucoup d'espèces végétales annuelles, c'est-à-dire qui germent, fleurissent et donnent leur descendance au cours de la même année, la plupart des plantes sont branchées, c'est-à-dire qu'elles vont avoir plusieurs tiges, une tige principale et des tiges secondaires. Les fleurs vont se former d'abord sur la tige principale, puis ensuite sur les tiges secondaires, ce qui fait que lorsqu'on va vouloir récolter la plante, on va avoir des graines matures sur la tige principale et des graines encore vertes ou des graines en cours de remplissage sur les tiges secondaires. Et pour domestiquer ces espèces, on s'est efforcé d'obtenir des plantes qui n'avaient plus qu'une seule tige. C'est l'exemple du maïs, c'est l'exemple du blé, c'est l'exemple de l'orge. Beaucoup d'espèces qui sont cultivées aujourd'hui sont des espèces pour lesquelles on a modifié l'architecture pour avoir une seule floraison et avoir toutes les graines à maturité en même temps.
Et ça
ne suffit pas. La deuxième modification qui a été faite pour domestiquer les plantes à graines, c'est d'avoir un moyen de récolter ces graines facilement. Une plante qui est arrivée à maturité, lorsque vous voulez la cueillir pour récolter ses graines, en général, le seul fait de casser la tige pour récupérer les gousses et les graines, ce seul fait suffit de disperser les graines de la plante. Immédiatement, ces graines vont tomber sur le sol et ce n'est pas ce que vous souhaitez. Et donc, l'homme a sélectionné des plantes chez lesquelles les graines restent attachées à la plante et ne vont pas se disperser naturellement. Pour le blé, c'est spectaculaire. Les grains de blé que vous avez dans un épi, vous êtes obligé de battre l'épi pour pouvoir extraire les grains de blé. Mais un blé sauvage a des graines qui se dispersent naturellement sans qu'on ait besoin de les battre.
Dominique Job.
Oui, à l'opposé, il y a des exemples contraires. Vous avez le colza. Il suffit de se promener sur le bord des routes pour voir les repousses de colza. Dans le cas de ces plantes-là, on n'a pas encore réussi à bien maîtriser, la recherche avance, hein, mais on n'a pas bien réussi à maîtriser le mécanisme de dispersion des graines à partir de l'ouverture des siliques. Et donc, c'est pour ça que l'on a ces fameuses repousses de colza.
Alors venons-en, avant de parler de la semence, de cette période, justement, un moment à part sur tout ce qui est du domaine de la vie, c'est la période de dormance des graines, où pendant un temps, alors plus ou moins court, on en a parlé au tout début de cette émission, hein, court ou plus ou moins important, 1400 ans pour le lotus sacré ou quelques jours pour les graines de peuplier, eh bien il va y avoir un moment comme ça de rien, de dormance. Dominique Job.
Bon. C'est des concepts un petit peu compliqués, mais il faut peut-être expliquer. Moi, je différencierais la survie à l'état sec de la dormance. Une graine sèche n'a pas du tout de métabolisme, donc elle est incapable de germer, tout simplement parce qu'elle est sèche, pour être simple. Ceci étant, les graines dans l'environnement naturel ne sont jamais en présence de telles conditions. Elles se retrouvent rapidement enfouies dans le sol et donc au contact d'eau. Se retrouvent imbibées, et comment se fait-il que ces graines ne germent pas ? Alors les graines ne germent pas, on dit qu'elles rentrent en dormance, ça peut être des dormances primaires, secondaires, qui sont induites notamment par les conditions environnementales, et c'est encore une fois un mécanisme de survie qui fait que la germination ne se produira pas parce que les conditions environnementales ne sont pas réunies pour que la plantule puisse en toute sécurité s'établir.
Donc ça veut dire que la dormance, en fait, c'est juste attendre
les bonnes conditions.
Bon, attendre les bons moments. Ouais. À quel moment la graine va savoir que c'est le bon moment pour pouvoir germer ?
Alors, bon, il y a sûrement une perception, entre guillemets, du niveau d'hydratation du sol, de la température.
Mais là, c'est pour la graine, justement, qui est déshydratée et qui va se réhydrater petit à petit.
Oui, qui va se réhydrater. Donc, y a-t-il assez d'eau, pas assez d'eau ? Est-ce que les températures sont favorables ou pas favorables ? Il y a également, certainement, la composition chimique du sol. Vous savez, on ne sait pas trop quels sont les mécanismes de levée de dormance. Mais l'azote, par exemple, lève la dormance.
Michel Caboche.
Alors, il y a un élément qui est primordial pour l'arrêt de la dormance, c'est les conditions lumineuses de l'environnement. Les graines...
Même enfouies dans le sol.
Oui, même enfouies dans le sol, les graines sont sensibles à l'éclairement, et en particulier à la durée de cet éclairement. Elles ont un système de détection dans la partie rouge du spectre, qu'on appelle le phytochrome. ce phytochrome va mesurer en quelque sorte la longueur du jour et c'est un des éléments qui vont permettre à la graine de prendre la décision ou non de germer. En général, lorsque la graine perçoit que la longueur du jour va en augmentant, au-delà d'une certaine durée, ces conditions sont permissives pour permettre la germination.
C'est assez extraordinaire. Ça explique pourquoi il y a du coup la vie qui reprend au printemps.
Et ça explique aussi pourquoi, quelquefois, on parle de semer les graines en pleine lune, parce que la lumière solaire réfléchie par la lune vient s'additionner à l'éclairement de la journée et peut être un élément stimulateur de la germination. Ce qui explique des observations qui ont été faites depuis très longtemps par les jardiniers amateurs sur le fait que la lune a un effet sur la germination.
Le calendrier lunaire pour les jardiniers. Dominique Job, vous voulez rajouter quelque chose ?
J'aurais aimé ajouter un aspect qui est que la dormance est en fait quelque chose que le semencier n'aime pas du tout. Parce que l'agriculteur aime bien, lorsqu'il a semé ses graines, qu'elles germent immédiatement. Et donc, depuis que l'agriculture est née, on a contre-sélectionné la dormance. Et on en a un peu le revers de la médaille quelquefois, parce que, je ne sais pas, mais vous avez peut-être entendu parler de phénomènes de germination sur pied, qui se produisent sur les céréales ou sur le colza. Ce phénomène, dans ces espèces végétales, au niveau des embryons, on a tellement éliminé la possibilité de dormance que la graine ne peut pas s'installer dans l'état de vie quiescente. Et au contraire, dès qu'elle a fini son développement, elle se met à germer sur la plante mère. Et à ce moment-là, les graines sont perdues.
Elles germent sur la plante.
Germent sur la plante, c'est ce qu'on appelle la germination sur pied. Donc on voit sur les éplis de blé, par exemple, on voit des germinations se produire.
Là, finalement, la main de l'homme...
La main de l'homme a amené un caractère très négatif.
Je voudrais reprendre les éléments de la communication de Loïc Rajou, qui est maître de conférence à AgroParisTech, qui a donc fait une conférence lors de cette séance de l'Académie d'agriculture que vous avez dirigée ensemble. C'était donc le 25 mars 2008. Je vais reprendre ce qu'il explique, à savoir que la dormance et la longévité influencent considérablement la vigueur germinative des graines, c'est-à-dire leur aptitude à germer rapidement et de manière uniforme et à générer des plantules vigoureuses. Est-ce que ça veut dire que plus on dort, mieux on se porte ?
Alors, Michel Caboche. C'est un raccourci un petit peu dangereux. Je pense qu'il faut comprendre que cette phase de dormance, c'est une phase qui va permettre à la graine, si je puis dire, d'attendre le bon moment pour démarrer sa germination. Et donc, le fait que la dormance se prolonge va permettre à terme que la graine soit effectivement prête à mobiliser ses réserves. Ça ne veut pas dire qu'elle a plus de réserves à la fin de la dormance qu'au début de la dormance, mais au début de la dormance, ses réserves sont là, mais elle ne sait pas les mettre en œuvre, alors qu'en fin de période de dormance, il y a une maturation qui s'est effectuée, et à ce moment-là, effectivement, l'utilisation des réserves va se faire de manière beaucoup plus efficace.
Dominique Job.
Quelquefois, le terme de dormance nous fait penser que la graine est complètement amorphe, qu'elle dort vraiment. Or, au contraire, quand elle est en dormance, elle a une activité métabolique, qui n'est pas une activité métabolique du type de la germination, puisque justement la définition de la dormance, c'est le refus de la germination, puisque les conditions ne sont pas bonnes. Mais il y a quand même un certain métabolisme. Et ce métabolisme nous intrigue. Il y a une piste qui nous intéresse. Quand Loïc disait « les graines, en quelque sorte, se bonifient pendant la dormance », il est possible que cette activité métabolique qui se manifeste pendant la dormance soit une activité de réparation contre les injures de l'environnement. Réparation contre les protéines, les acides nucléiques, etc. Éviter que la graine accumule trop de dégâts jusqu'à un point de non-retour qui fait qu'elle perd sa viabilité.
Pour poursuivre sur Loïc Rajou, il parle du priming. Est-ce que vous pourriez nous développer cette méthode, Dominique Job ?
Le priming, c'est une technique qui est couramment employée par l'industrie semencière pour améliorer la qualité germinative des graines. De quoi s'agit-il ? C'est quelque chose qui est extrêmement simple. Ça consiste en une imbibition contrôlée des graines de telle manière à ce que les graines reçoivent une certaine quantité d'eau, mais de manière insuffisante pour aller jusqu'à l'étape de germination. Bon. Tant qu'on n'a pas atteint l'étape de percée radiculaire, donc la germination, la graine reste tolérante à la dessiccation, et donc après l'avoir imbibée, on peut la sécher et la conserver. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette étape d'imbibition ? Il y a deux hypothèses. Soit on a sorti la graine de la dormance, elle est partie vers la germination, donc elle prend une avance sur le temps, on fige tout ça par la dessiccation, et les graines ont une avance. Quand on va les ressemer, elles vont démarrer plus rapidement, première hypothèse. Deuxième hypothèse, pendant cette imbibition des graines, les graines se réparent, par exemple, et donc augmentent leur vigueur germinative, et ce faisant, elles vont par la suite germer plus facilement.
Et c'est valable pour toutes les espèces ?
C'est valable pour toutes les espèces orthodoxes.
Orthodoxes. Je vous propose de marquer une seconde courte pause dans la troisième partie. Nous parlerons des tanins. Pas stresser la graine grâce aux tanins. Nous développerons cette question avec vous, Michel Caboche. Nous parlerons bien sûr de la germination. Et puis, pour faire la conclusion de cette émission, nous parlerons de la Norvège et du Spitzberg, où devraient être conservés jusqu'à 4,5 millions d'échantillons de semences de culture à une température de moins 18 degrés. A tout de suite.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Suite de notre émission Éclairage sur la biologie de la graine en compagnie de Michel Caboche et de Dominique Job, dans cette troisième partie, nous allons poursuivre sur le tanin des graines qui fait que ces graines ne sont pas très stressées, Michel Caboche, et ça constitue l'objet de vos travaux actuels.
Oui, alors les tanins, ce sont des molécules assez complexes qui ont des propriétés qui leur permettent de protéger les graines. Ces tanins ne sont pas présents dans l'ensemble de la graine, ils sont présents dans cette couche dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la couche maternelle, la couche la plus externe de la graine, dans laquelle les tanins sont accumulés. Donc c'est une espèce de bouclier qui est constitué au cours de la maturation de la graine, bouclier contre l'oxygène, bouclier contre les rayonnements ionisants, bouclier contre tout ce qui peut être dangereux en définitive pour la survie de la graine.
Elle ne se ride pas puisque c'est des antioxydants.
Oui, alors...
Elle ne vieillit pas.
Elle vieillit certainement moins du fait de la présence de ces antioxydants. Ces antioxydants font l'affaire de la graine, bien entendu. Ils prolongent sa survie dans l'environnement. Mais pour les usages agricoles qu'on peut faire des graines, ça n'est pas nécessairement quelque chose de très positif. Parce que ces tanins, lorsqu'ils sont présents en grande quantité dans une ration alimentaire d'un animal, ils vont perturber le phénomène de digestion. Parce que, justement, ils ont aussi des propriétés qui antagonisent les processus de digestion à l'intérieur de l'organisme des animaux. Et donc, ces tanins, on voudrait bien pouvoir les supprimer quand ils sont présents en grande quantité dans certaines graines, comme les graines de colza, avec comme conséquence que les graines qui n'ont plus de tanins vont avoir des viabilités réduites, ne vont pas pouvoir se maintenir très longtemps viables dans le sol, ce qui est aussi un avantage pour l'agriculteur, parce qu'il voudrait pouvoir semer des colzas, mais les récolter la première année, et s'il y a des repousses l'année suivante, que ces repousses ne soient pas aussi importantes, parce que les graines qui donnent lieu à ces repousses seront beaucoup moins nombreuses.
Alors, pardonnez-moi ma question qui va certainement vous paraître idiote, mais je ne savais pas qu'il y avait des tanins dans les graines, je pensais que le tanin se trouvait essentiellement dans le raisin, par exemple.
Eh bien, il s'agit bien de la même classe de molécules qui sont présentes à la fois dans les baies de raisin, mais dans beaucoup de légumes, dans les graines. Mais les tanins constituent un terme générique pour des molécules qui sont assez diverses en définitive. Quand on analyse la structure de ces tanins, c'est des centaines de molécules apparentées qui sont appelées tanins. Donc les compositions en tanins sont importantes dans beaucoup de tissus, mais la composition qualitative est un petit peu différente d'un tissu à l'autre. Ce qui fait que des tanins qui sont présents, par exemple, dans le vin, sont considérés comme des substances qui sont bénéfiques pour la santé des consommateurs de vin, à condition qu'ils n'en boivent pas de manière excessive. Par contre, ces tanins, quand ils sont présents dans les graines de colza, leur structure est assez différente. Et là, en fait, ils ont des propriétés réactives contre certaines protéines et peuvent les dénaturer et empêcher de les digérer. Donc, selon les tissus, selon les organes, leur rôle peut être bénéfique ou au contraire antagoniste.
Dominique Job, vous voulez poursuivre sur cette idée ?
Simplement pour préciser que les tanins ne sont pas les seules molécules dont dispose la graine pour lutter contre les stress oxydants. Il y a bien évidemment d'autres molécules comme les tocophérols, l'acide ascorbique, la vitamine C. Et donc il y a tout un ensemble de mécanismes chimiques qui sont mis en place pour éviter que la graine soit détériorée par les rayonnements ionisants et par les dérivés toxiques de l'oxygène.
Alors lorsque cette graine est entrée en dormance, comment va-t-elle faire pour en sortir? C'est le froid et le sec, donc ces deux éléments associés qui va faire qu'elle va germer.
Eh bien oui, Michel Cabosch. le froid, le sec, on a vu l'environnement lumineux. Beaucoup de facteurs vont intervenir.
C'est ce qu'on appelle la vernalisation, c'est ça ?
Alors, la vernalisation, c'est un tout petit peu différent. La vernalisation, c'est un processus qui s'opère au niveau de la graine, par le fait que la graine est imbibée et maintenue à basse température, au-dessous d'une certaine température. Ce traitement va être, si je puis dire, enregistré par la graine, qui ensuite, lorsqu'elle va germer, va permettre le développement de la plante, et non seulement le développement de la plante, mais la montée à fleur de cette plante. Donc le processus de vernalisation, c'est un processus qui permet, dès que la germination a lieu, d'engager assez rapidement le processus de reproduction, de formation de fleurs. En absence de vernalisation, ce qui se passerait, c'est que la plante commencerait son développement, multiplierait ses feuilles sans jamais monter à fleurs. Et en fait, elle attendrait cette plante qui ait une période de froid, par exemple l'hiver suivant, pour être vernalisée et pour pouvoir monter à fleurs l'année suivante. C'est l'exemple typique qu'on a pour des espèces comme la betterave, qui normalement, lorsqu'on les sème durant la première année, vont donner des racines, mais pas de partie aérienne avec des fleurs. Et au-delà de l'hiver passé, ces mêmes betteraves qui auront passé l'hiver vont être capables de fleurir. Et donc ce processus de vernalisation, il peut se faire sur la plante au stade végétatif, mais il peut même se faire sur la graine pour anticiper le stade végétatif qui va avoir lieu ensuite.
Mais c'est pour des espèces bien particulières, j'imagine, peut-être, Dominique Job.
Je réfléchissais à un autre élément qui est fait la graine dans le sol et qui tente de faire des germinations est en fait un organe extrêmement dynamique qui n'est pas passif dans l'attente simplement de conditions et la germination a lieu. En fait, la graine tente en permanence de germer. Et à ce moment-là, elle peut entrer dans différents états. Soit les conditions sont favorables, elle va jusqu'à la germination, on en reparlera tout à l'heure, soit les conditions ne le sont pas et elle retourne dans un état de dormance. On parle de dormance primaire, de dormance secondaire. Donc en fait, la graine dans le sol est en permanence dans des cycles où elle essaie de faire différents types de choses, soit aller vers la germination, soit éviter d'aller vers la germination, donc de manière extrêmement active.
Est-ce que c'est ce que vous expliquez, Michel Cabosch et Dominique Job, c'est valable pour certaines espèces ou pour l'ensemble des espèces ?
C'est valable pour certaines espèces, mais pas les moindres. Le blé, par exemple. On a des blés d'hiver et des blés de printemps. Les blés d'hiver sont des blés qui ont besoin justement d'une vernalisation pour monter à graines, alors que les blés de printemps, lorsqu'ils sont semés, ils sont capables directement de développer un appareil reproducteur et des graines la même année.
Si vous voulez, passons à la germination. La germination, c'est le stade où il y a la plante qui sort de terre et où il y a justement ce passage de la graine nourrie par ses réserves à la photosynthèse. C'est ce passage-là, Dominique Job ?
Pas exactement. En fait, la germination se termine lorsqu'on voit la plantule et plus précisément lorsqu'on voit la radicule. Alors quand la graine est sous le sol, c'est très difficile à voir. Mais au laboratoire, en tout cas, c'est comme ça qu'on définit la germination. Quand la radicule est visible, c'est le démarrage de la croissance de la plante et la germination est terminée. Dans cette phase de germination, en fait, la graine part d'un état qui est supposé sec, mais en fait c'est faux puisque la graine est déjà dans le sol, donc on suppose qu'elle est déjà imbibée. Elle vient de sortir de la dormance et elle s'engage vers un processus de développement qui est totalement à l'opposé de celui qu'elle a vécu pendant la germination. Pour être simple, pendant la maturation de la graine, le programme génétique de l'embryon est d'accumuler des réserves en vue de la germination. Au cours de la germination, se met en place un programme génétique qui est d'utiliser ces mêmes réserves et de stopper leur accumulation. Donc c'est vraiment un changement radical qui implique la participation de plusieurs milliers de gènes et dont on a encore un peu du mal à débroussailler le rôle. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours d'étude actuellement. Donc il y a ce changement de programme génétique qui est extrêmement important. Et ce que je pourrais ajouter aussi, c'est qu'à partir du moment où les conditions auraient été réunies pour que les germinations, disons, productives se fassent, aillent jusqu'à leur terme, eh bien, il y a une phase pendant laquelle la graine peut encore décider de ne pas germer. Donc tout n'est pas...
Il peut revenir en arrière.
Il peut revenir en arrière parce qu'il y a danger d'installer une plantule dans un environnement défavorable qui va conduire à une plantule anormale. Et donc il y a possibilité d'un retour en arrière et de réinduction du programme de maturation pour reformer des réserves réparer ce qui a été endommagé, voire retourner dans la dormance. Et donc on retourne dans le cycle jusqu'au moment où on pourra redémarrer à nouveau vers la germination.
Ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire. Michel Cabot, je voulais rajouter quelque chose.
C'est un processus qui est contrôlé de manière très sophistiquée. Et c'est dans ce domaine qu'on a découvert aussi le rôle de certaines hormones végétales, en particulier les gibbérellines, qui sont des molécules qui interviennent dans les processus d'élongation des cellules, un petit peu comme l'hormone de croissance dans le règne animal. Ces gibbérellines ont un rôle très particulier au cours de la mise en branle de la germination, en particulier parce que, par exemple, chez les céréales, on a découvert que les gibbérellines stimulaient la formation d'une enzyme particulière, la bêta-amylase, qui a pour fonction de dégrader les réserves en sucre de la graine, les réserves d'amidon plus exactement. L'amidon est converti en sucre libre et ces sucres libres ensuite sont utilisés pour faire de l'énergie et pour permettre à la graine en train de germer de poursuivre sa germination.
La deuxième hormone,
c'est une hormone qui joue un rôle antagoniste, qui va empêcher ce processus. Et cette hormone s'appelle l'acide abscissique, qui intervient lui aussi dans le maintien de la dormance de la graine et qui a par ailleurs d'autres fonctions dans la plante, des fonctions associées à la tolérance au stress hydrique, par exemple, à l'absence d'eau dans le sol.
Donc je suppose que ça revient aux deux étapes que vient d'expliquer Dominique Job.
Oui, en fait, beaucoup de ces phases sont réglées en fait par l'une et l'autre des hormones, mais surtout par leur rapport, hein, puisque ces deux hormones sont en quelque sorte antagonistes, l'une favorisant la germination, l'autre l'inhibant. Et donc, on va d'une phase de dormance à une phase de germination en modulant finement le niveau d'accumulation de ces deux hormones dans l'embryon.
Pour terminer cette émission, puisque nous arrivons à terme, bien malheureusement, de cette émission, si vous voulez bien, parlons un peu du Spitsberg en Norvège, où depuis février 2008, il y a un stockage qui va se poursuivre au fur et à mesure des années, d'espèces ou de graines, je ne sais pas, de 4,5 millions d'échantillons de semences, de cultures vivrières du monde pour préserver. Et là, je cite ce qui est écrit sur le site internet de cette conservation mondiale de semences. Pour préserver l'humanité de l'extinction d'espèces essentielles à sa survie. Alors, quel est votre avis à vous deux de spécialistes sur cette conservation ? Conservation, je précise, à moins 18 degrés, ce qui, j'imagine, fait que ces graines, elles ne sont plus en état de dormance. Là, elles sont encore à un stade en dessous, qui fait qu'elles puisent de moins en moins dans leurs réserves.
Oui, alors on peut avoir une opinion partagée sur ce projet. Pour donner un exemple, les parcs nationaux qu'on a créés en France, on a constaté que leur création pouvait quelquefois être contre-productive parce qu'elle donnait aux citoyens l'impression que puisqu'il y avait des parcs, on pouvait faire n'importe quoi à partir du moment où on n'était pas dans le parc. Et là, le fait de faire des stocks, des collections de graines, ça peut aussi inciter à se dire, bien, ne nous faisons pas de soucis puisqu'on a un stock merveilleux de graines de toute la planète, on peut faire ce qu'on veut sur le reste de la planète et ça ne sera pas trop grave, on pourra toujours revenir à ce stock de graines. À mon sens, ce qui est véritablement important, c'est de pouvoir conserver in situ, c'est-à-dire là où naturellement ces espèces vivent, conserver l'aptitude des espèces végétales, en particulier celles qui sont importantes en matière de nutrition humaine, de les maintenir là où elles existent naturellement. Par exemple, pour le blé, c'est le croissant fertile, c'est l'Irak. Vous imaginez qu'actuellement en Irak, certainement, avec ce qui se passe dans le pays, il y a vraiment un péril pour des populations naturelles de blé qui peuvent être éventuellement détruites pour des raisons diverses et variées. Et ce serait certainement très important qu'on puisse continuer à maintenir et à protéger ces espèces là où elles existent naturellement.
Oui, Dominique Job.
Moi, je pense qu'il y a un débat sur la meilleure façon de conserver les graines. Je pense que d'un point de vue fondamental, cette thématique sur la longévité exceptionnelle des graines est quelque chose qui est tout à fait prodigieux et qui peut avoir des retombées en santé humaine. Si on arrivait à comprendre le secret de la longévité des graines, immédiatement, on en suspecterait des applications. Et les mécanismes de base du vieillissement cellulaire sont les mêmes. C'est une atteinte des macromolécules constituant la cellule, les acides nucléiques, les protéines, les lipides membranaires. Et ensuite, il y a des activités de réparation de tout ça, de telle manière à ce que l'ensemble fonctionne de manière appropriée. Oui. Donc les graines ont optimisé ces mécanismes-là de survie et de réparation face à des altérations. Elles les subissent. Elles peuvent avoir des mécanismes qui empêchent les altérations. Michel a parlé des téguments de la graine équipés avec des tanins qui préviennent les oxydations, etc. Mais malgré tout, elles sont quand même sujettes à des altérations et elles sont capables de se réparer. Et on sait, par exemple, que les graines qui ont la survie la plus grande jamais décrite sont les graines qui sont capables de se réparer de la manière la plus intense possible. Donc, il y a, si vous voulez, ces connaissances-là auront des applications en santé humaine, certainement, pour nous expliquer comment une cellule vieillit. Mais et se répare.
Vous voulez dire que, également, si je comprends bien aussi à travers ce que vous dites, ça veut dire que les conserver à moins 18 degrés, au bout d'un moment, elles seront quand même atteintes sur plusieurs centaines d'années. Donc finalement,
est-ce que ce sont les meilleures conservations ?
Voilà, est-ce que cette conservation a un terme, en fait ?
Oui. Sur un laps de temps de 20 ans, il n'y a pas de problème. On revient dans 20 ans, les graines seront viables. Mais là, je vois sur le site web en question qu'on dit telle espèce pourra se conserver 10 000 ans. Comment peut-on dire ça ? Et qui pourra vérifier que dans 10 000 ans, la graine sera toujours viable ? À condition que l'environnement soit encore propice pour que cette graine-là germe.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Michel Caboche ?
Oui, je voudrais simplement dire qu'on a abordé cette question de la physiologie, de l'utilisation des graines en alimentation, de la dormance. Je crois qu'il faut bien comprendre que l'étude de la graine, c'est un domaine où il y a énormément de choses encore aujourd'hui qui restent à découvrir. C'est vraiment, la graine est vraiment une structure, un organe très particulier qui comporte encore beaucoup de mystères actuellement et qui est un sujet passionnant à aborder encore aujourd'hui.
Si petit et pourtant si mystérieux. Ouais. Merci de nous avoir rendu visite à tous les deux. J'invite bien sûr nos auditeurs à aller sur le site de l'Académie des sciences où on peut y voir le résumé des interventions des 4 personnes qui sont venues faire leur communication en rapport avec le sujet la graine, qui d'ailleurs m'a servi à préparer cette émission. Et puis je renvoie bien sûr au site de l'Académie d'agriculture, à laquelle appartient Dominique Job, correspondant de cette académie, et également à l'Académie des sciences à laquelle vous appartenez. Michel Caboche, merci une nouvelle fois de nous avoir rendu visite, et peut-être à une prochaine fois pour une nouvelle émission. Au revoir.
Merci.
Merci à vous.